Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat. Notre monde, le monde qui nous entoure, est très réel pour nous, très concret. Nous avons nos cinq sens, la vision, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, et même la science moderne a additionné un certain nombre de choses, comme par exemple la position, que nous avons le sens de la position de notre corps, l'équilibre, la température et la douleur. Et un enfant, petit à petit, une fois qu'il est né, s'éveille à ses cinq sens et même plus. Mais il y avait un monde qui existait bien avant notre monde qui nous entoure et qui existera toujours. Dieu est éternel et Dieu a créé, avant de créer notre monde, Dieu a créé un monde spirituel. Et c'est dans ce monde qu'habitent les anges. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler justement des anges. C'est le sujet de ce sermon, les anges, qui existent et qui sont dans ce monde spirituel. Commençons, si vous voulez bien, avec Hébreux chapitre 13 et le verset 2. Parce que ici, nous voyons une interaction entre notre monde et le monde des esprits. Hébreux chapitre 13 et le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, donc il parle au monde de l'Église, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Une situation qui existait donc à l'époque, qui certainement existe encore à notre époque, de temps à autre. Nous vivons dans un monde très matérialiste et l'être humain ne croit que ce qu'il voit. Mais la Bible nous dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, que le monde spirituel existera toujours. C'est ce que nous voyons, je ne m'y rapporte pas, dans 2 Pierre chapitre 3, je cite, « Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc, ce monde physique qui nous entoure, que nous voyons tous les jours, va disparaître, à disparaître complètement. Ça, c'était dans 2 Pierre, chapitre 3. Donc, tout ce que nous voyons autour de nous actuellement est appelé à disparaître. Notre monde matériel que nous voyons est appelé à disparaître. Et il y aura un autre monde à ce moment-là. Mais le monde spirituel est plus réel que le monde physique qui nous entoure, que nous voyons. Et les anges sont composés d'un corps spirituel. Les anges vont vivre à toujours parce que ce sont des esprits. Et ce que nous voyons dans Luc, je ne m'y rapporte pas non plus, dans Luc chapitre 20, où il est question de la résurrection des morts, à la fin du verset 35, je cite, et à la résurrection des morts, c'est Christ qui parle, en parlant donc des gens qui vont être ressuscités, ils ne prendront ni femme, ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Les anges qui ne peuvent pas mourir. Ils sont semblables aux anges et qui sont fils de Dieu et ton fils de la résurrection. C'est donc une comparaison entre les gens qui vont être ressuscités, une fois que le Christ revient, et les anges, y compris dans le fait qu'ils ne pourront pas mourir. Les êtres humains qui vont être ressuscités lorsque le Christ revient ne pourront plus mourir parce qu'ils seront esprits, comme les anges. J'ai voulu vous montrer un exemple de la réalité du monde spirituel qui se trouve dans 2 Rois chapitre 6. Cette fois-ci, on va s'y rapporter. 2 Rois chapitre 6. Le contexte est un contexte de guerre entre la Syrie et Israël. Et le roi de Syrie a décidé d'aller à Dothan pour prendre Élisée, homme de Dieu. 2 Rois chapitre 6, on va commencer avec le verset 14. Il y envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Évidemment, il n'était pas rassuré, il avait plutôt peur. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il faisait donc allusion aux anges de Dieu. Élisée, en étant proche de Dieu, était très très conscient du monde spirituel. Élisée, verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce qui est réel, ce qui existe, mais que nous, êtres humains, normalement, nous ne voyons pas. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dieu a envoyé ses anges pour protéger Élisée. Et le serviteur a pu voir cette protection parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Les anges ont la vie inhérente en eux. L'immortalité. Ils sont composés d'esprits. Ils n'ont pas besoin de manger comme nous pour survivre, pour continuer à exister. Ils n'ont pas besoin comme nous de respirer pour rester en vie. Ils n'ont pas besoin d'air. Ils ont une vie autonome, inhérente en eux. Et ils sont appelés dans la Bible, dans Job, les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu parce qu'ils ont été créés par Dieu. C'est pas la même chose que nous. Nous sommes conçus et nous développons dans le sein de notre mère avant de naître. Il y a une chose que Dieu, les anges étaient créés par Dieu, mais il y a une chose que Dieu n'a pas créée. Et c'est vrai, pour les anges, c'est vrai pour les êtres humains. Que Dieu ne peut pas créer quelque chose que Dieu ne peut pas créer instantanément par décret. Dieu n'a pas créé, que ce soit chez les anges ou que ce soit chez les êtres humains, un caractère parfait, saint et juste. Parce qu'un caractère parfait, saint et juste est inhérent à la foi à Dieu et à la parole. Je répète cette phrase, parce que le caractère parfait, saint et juste est inhérent à la foi à Dieu et à la parole, le Christ. Et pour avoir un caractère parfait, saint et juste, c'est quelque chose qui doit être développé. Ça exige le fait de se soumettre à Dieu. Et bien sûr, c'est le dessein de Dieu qu'on se soumet à lui. M. Armstrong, à l'époque, a souvent défini le caractère parfait. Pour parvenir à ce caractère parfait, il faut d'abord discerner le vrai et le juste du faux. Deuxièmement, il faut se soumettre volontairement, pleinement et inconditionnellement à Dieu. Et bien sûr, ça demande, ça exige notre participation. M. Armstrong a dit ceci, « Les anges eux-mêmes devaient nécessairement jouer un rôle, le rôle donc, un rôle dans le développement du caractère. Et leur création, parce qu'ils ont été créés par Dieu, ne pouvait être véritablement achevée que lorsque ce caractère avait été perfectionné, en restant fidèle et soumis à Dieu, contrairement à Lucifer. C'est la même chose pour ceux que Dieu appelle maintenant. Il nous faut développer ce caractère parfait. Et ça prend du temps. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour le développer, pour y parvenir. Les anges ont été donc créés. Et c'est ce que nous voyons à propos de Lucifer dans Ézéchiel chapitre 28. Il y a deux versets qui stipulent comme quoi Lucifer a été créé avant de devenir, bien sûr, Satan. Dans Ézéchiel chapitre 28 et le verset 13. D'abord, Ézéchiel chapitre 28 et le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine. Lucifer était parfait en beauté. De sardoine, de topaz et de diamant, de cristallite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Lucifer, comme les autres anges, était créé à un moment donné. Le verset 15 répète un peu la même chose. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que celui où l'iniquité ait été trouvée chez toi. Donc Lucifer, comme j'ai dit, Lucifer et les anges ont été créés. Nous avons un verset dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 16, qui est très intéressant dans ce contexte. Je vais commencer à lire à partir du verset 15 pour situer un petit peu le contexte. Il est question du Christ, de Jésus-Christ ici. Verset 15, il est l'image du Dieu, je saute au milieu d'un contexte, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été, en Jésus-Christ, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Donc, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui, tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes nés. Les gens, les anges, c'est une création ou des créations de Dieu. Les anges sont des êtres créés individuellement. Individuellement. Ils ont une autre dimension que ce que nous avons actuellement. Une dimension que si nous sommes changés à la résurrection, nous aurons aussi. Nous avons déjà vu Luc chapitre 20. Comme quoi les anges ne peuvent pas mourir. Et nous voyons bien la différence entre le sort des méchants. D'après la Bible dit que tous les méchants seront comme du chaume. le sort des méchants pour les êtres humains et le sort de Satan et des démons. Satan et les démons vont être restreints. Je ne permettrai plus qu'ils puissent séduire les êtres humains. De toute façon, ultérieurement, ce sera un monde spirituel. Mais Satan et les démons vont continuer d'exister parce que ce sont des esprits. Et les anges justes vont continuer à exister, vont continuer à servir Dieu. Pour mieux comprendre la fonction, les activités des anges justes, nous pouvons faire une comparaison. Imaginons un homme riche, très riche, qui a un fils. Et quand ce fils est jeune, il est sous la supervision d'un serviteur, d'un tuteur, d'un protecteur. Tant que le fils est petit, le protecteur, le tuteur est plus puissant que lui. Il a, bien sûr, parce qu'il est adulte, il a plus de connaissances que le fils. Il est plus développé à ce moment-là, quand le fils est petit, il est plus développé physiquement et mentalement. Comme j'ai dit, il a plus de connaissances, plus de sagesse, plus développé. Le fils va recevoir une éducation, va se développer, mais tant qu'il n'est pas encore adulte, il n'est pas dans une position pour assumer ce que son père va lui donner. Il n'est pas encore assez mûr, il n'est pas encore assez développé pour pouvoir accéder à ce que son père va lui donner. Mais de l'autre côté, son protecteur, son tuteur, son serviteur, le serviteur du fils, a beaucoup moins de potentiel que le fils. Beaucoup moins de potentiel. Il ne va pas recevoir la même chose, les mêmes choses que le fils par la suite. Et quand le fils devient mûr, quand il va devenir adulte, par exemple, il va hériter de la richesse, de l'autorité, du pouvoir de son père. Le fils, c'est l'héritier. La Bible dit que nous avons reçu un esprit d'adoption, que nous sommes héritiers, les héritiers de Dieu. Et les anges nous servent, ils sont, entre autres, nos protecteurs. Les anges, bien sûr, ont vu les activités des hommes, comprennent comment nos esprits fonctionnent, et les anges ont toujours eu le libre arbitre. Les anges, dès le début, dès que les anges étaient créés, ont pu penser, ont pu prendre des décisions. C'est ce que nous voyons. Je ne m'y rapporte pas, mais dans Ésaïe chapitre 14 et le verset 13, Ésaïe chapitre 14 et le verset 13, c'est le passage où Dieu parle de Lucifer, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessous des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée. Et nous voyons donc dans ce passage que Lucifer a pensé, il a pensé de travers, mais il a pensé de travers et il a aussi pris des décisions. Il avait le libre arbitre de le faire. Dieu a dit dans Ézéchiel que Lucifer a péché, tu es rempli de violence et tu as péché. Les démons aussi, tout comme Lucifer avait le libre arbitre, le faire ou ne pas le faire. Tout comme les anges justes, ils pouvaient prendre des décisions, c'est ce que nous voyons ici dans Ésaïe chapitre 14. Les anges pouvaient aussi prendre des décisions et les anges ont déjà choisi la voie de Dieu. Ils ne vont pas pécher comme les démons. Il y a un exemple biblique qui démontre bien à quel point les anges peuvent choisir, à quel point ils ont le libre arbitre pour faire des choses tout en restant bien sûr fidèles à Dieu. Après que l'Éternel a parlé avec Abraham dans Genèse chapitre 18, nous arrivons à chapitre 19, verset 1, et nous lisons « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, mais Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Apparemment, Lot, à ce moment-là, ne savait pas pourquoi les anges sont venus. À la fin du verset 2, « Non, répondait-il, nous passerons la nuit dans la rue. » Ils ont décidé de faire comme ça. Verset 3, « Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et rentra dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et y mangèrent. » Tout comme le Christ, avec ses disciples, avec les apôtres, une fois ressuscité. Nous voyons ici qu'il y a une interaction entre Lot et les anges. Ils écoutent, même dans cette situation dramatique, ils changent d'avis, ils entrent chez Lot. Bon, nous connaissons bien la suite de l'histoire, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Donc, ils voulaient faire du mal. Ils voulaient connaître, comme c'est marqué dans la Bible, connaître les hommes qui sont entrés chez Lot. Verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Ils avaient des pouvoirs surnaturels, ils avaient la liberté d'agir de cette façon. Ils étaient en mission envoyés par Dieu. Ils voulaient que la famille de Lot sorte de la ville. Verset 13, « Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'ils ont expliqué à Lot pourquoi ils étaient là. Ils avaient pourtant mangé un repas ensemble, ils avaient passé du temps avec lui, ils sont rentrés dans sa maison, il y a eu l'incident avec les gens de la ville, mais c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont expliqué pourquoi ils étaient venus. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ils savaient que Dieu voulait épargner Lot. Et devant le manque d'entrain de Lot, à ce moment-là, ils ont pris les choses en main. Ensuite, nous voyons de nouveau leur liberté d'action. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et l'autre le dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Verset 20. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, oh que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Il lui dit, voici, donc cette liberté d'action, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Ils avaient du pouvoir, ils avaient de l'autorité, ils avaient le libre arbitre, et ils pouvaient prendre un certain nombre de décisions. Il y avait aussi, on le voit bien, entre guillemets, de l'humanité dans le comportement. De l'humanité, entre guillemets, dans leur comportement. Les anges participent dans l'administration du gouvernement de Dieu. Et nous avons un aperçu dans 1 Roi, chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 19. Le contexte ici, c'est qu'il y a le roi d'Israël, Achab, méchant roi. Il y a le roi de Juda, qui était juste Josaphat, qui sont ensemble. Et Achab se demande s'il devait attaquer Ramoth en Galaad, s'il devait attaquer les Syriens, parce qu'il était en guerre contre la Syrie. Achab, contre son gré, finit par faire venir un prophète de Dieu, Michée, c'est ce que nous voyons dans le verset 19, et Michée, dans un deuxième temps, dit ceci, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Bien entendu, Dieu est en charge, mais nous voyons ici la participation, comme c'est marqué, de toute l'armée des cieux. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Peut-être que c'était un démon, puisque les anges justes ne mentent pas. Mais toujours est-il que Dieu, qui est toujours en charge, Dieu a pris la décision que Achab allait mourir pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse. Mais Dieu a aussi fait participer toute l'armée des cieux. Je continue à la fin du verset 22. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. La volonté de Dieu s'exécute, mais avec la participation de l'armée des cieux. Ça fait penser à ce qui s'est passé dans le premier chapitre et le deuxième chapitre de Job. Le plan de Dieu va se réaliser. Il y a parfois différentes possibilités pour que ça s'accomplisse. Et nous voyons ici de nouveau le monde spirituel qui agit avec le monde physique. que le monde spirituel et le monde physique se chevauchent. Il y a, quand nous regardons les anges, il y a différents anges, différentes catégories, si vous voulez. Il y a déjà les chérubins. Et nous voyons quelque chose assez spectaculaire dans Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 5. Pour nous, c'est insolite. Nous avons peut-être de la peine à imaginer. Il est question dans ce chapitre de ce que la Bible appelle une forme de trône. Et dans le verset 5, j'ai voulu vous lire ça dans la seconde version, second 21. Au centre encore, quelque chose ressemblait à quatre êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Verset 6. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Le pied était droit et la plante de leur pied était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leur face et leurs ailes étaient séparées par le haut, deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient le corps. Si nous regardons Ézéchiel toujours, chapitre 10 et le verset 20, nous voyons bien qu'il s'agit ici des chérubins. Et ce que la Bible décrit ici, les chérubins que la Bible décrit ici, est complètement différent de ce qui est dépeint quand on évoque généralement les chérubins avec un visage enfantin. Et ici, donc, les chérubins sont associés avec cette forme de trône. Et il y a aussi des chérubins qui reçoivent des directives de ce trône pour garder le chemin de l'arbre de vie après qu'Adam et Ève ont péché. Il y a aussi des séraphins qui sont différents parce que si vous regardez de plus près dans Ézéchiel, les chérubins ont quatre ailes. Nous voyons dans Ésaïe, chapitre 6, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, les deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient, verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Si nous regardons Apocalypse chapitre 4 et le verset 6, nous voyons des parallèles par rapport à ce que nous venons de voir. Apocalypse chapitre 4 et le verset 6, au milieu de verset 6. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait quatre êtres vivants. C'est ce que nous venons de voir dans Ézéchiel. Quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ensuite, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est presque la même chose de ce que nous avons vu dans Ézéchiel. Et il y a un autre parallèle que nous trouvons dans le verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et ça nous rapproche de ce que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 6. Le récit biblique est fascinant et nous donne un aperçu du domaine des anges. Continuons à lire, si vous voulez bien, dans le verset 9. Toujours Apocalypse chapitre 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Je trouve le verset 9 très intéressant pour nous. Ce que les anges font, ce que les êtres vivants font, est un modèle pour nous quand nous prions. Ils rendent gloire et honneur et action de grâce. Et nous, quand nous prions, il convient de glorifier Dieu, de louer Dieu et aussi, bien sûr, de remercier Dieu. C'est exactement ce que les quatre êtres vivants font. C'était aussi un culte à Dieu. Verset 11. Je reviens sur le verset 10 tout à l'heure. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous voyons ici l'attitude des 24 vieillards. Le sujet a changé. C'est maintenant les 24 vieillards qui parlent, qui est aussi un modèle pour nous. Verset 10, je reviens sur le verset 10. Je reprends le verset 9. C'est quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à Dieu. Verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur. Ils sont soumis à Dieu. C'est leur Dieu. Ils jettent leur couronne devant le trône. L'autorité suprême, c'est Dieu, c'est leur Dieu. Il y a aussi des archanges, c'est-à-dire des chefs des anges d'un rang supérieur. Michel est mentionné comme archange dans l'épître de Jude. Mais combien d'anges y a-t-il? Quand le Christ est né, il y avait une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. Et ensuite, qui sont retournés au ciel. Nous avons plus de précision dans Apocalypse chapitre 5, où il est aussi question du trône de Dieu. Apocalypse chapitre 5 et le verset 11. Apocalypse chapitre 5 et le verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et le nombre, donc les catégories, les autres catégories que nous venons de voir, et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. De nouveau, donc, des louanges à Dieu. Myriade est définie comme un très grand nombre, une quantité immense. Et la version Semeur parle des millions de millions. Il y a donc 12 zéros derrière le chiffre. 12 zéros, c'est un très grand nombre. Et ça, c'était devant le trône de Dieu. Et cela ne tient compte que des anges qui sont devant le trône de Dieu. Les anges de Dieu ne sont pas, bien sûr, ne sont pas des robots. Les anges de Dieu peuvent être et sont affectés par certains événements. Il est question de la joie, il est question d'un sens d'urgence dans certains cas, comme nous venons de voir dans Genèse chapitre 19. Et les anges ont exprimé la joie quand Dieu a créé cette terre. C'est marqué dans Job, ils éclataient en chants d'allégresse. Il y avait la joie, ils étaient contents. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et nous savons aussi qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Comme c'est écrit dans Luc chapitre 15 et le verset 10. Quand le Christ sera de retour sur cette terre, Apocalypse 19 et le verset 1, nous lisons « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Et puis dans le verset 7, toujours le même chapitre, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, donc le retour du Christ, et son épouse s'est préparée. » Quand Gabriel s'est montré à Zacharie, le père du Jean-Baptiste, Zacharie avait peut-être des doutes, mais toujours est-il que Gabriel n'était pas heureux avec sa question. Et il a dit, tu ne pourrais pas parler un peu plus loin parce que tu n'as pas cru à mes paroles. C'est l'exemple d'un ange qui n'était pas content avec ce qui s'est passé. Les anges ont beaucoup de pouvoir. Ce que nous avons vu tout à l'heure aussi, c'est qu'ils ont une certaine latitude. Et les anges participent à leur niveau au plan de Dieu, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Ils font partie de sa réalisation. Ils font partie de sa réalisation. Quand le Christ va revenir, il viendra dans sa gloire avec tous les anges. Et aussi, nous lisons dans Matthieu 24, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils ressembleront ses élus des quatre vents. Ils sont très impliqués dans le plan de Dieu avec le retour du Christ. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est un ange qui a la clé de l'abîme, qui jette Satan dans l'abîme. Donc, une autre partie du plan de Dieu. Les anges justes sont heureux de participer dans le plan de Dieu. Et les anges justes ont déjà prouvé leur loyauté. Hébreux chapitre 1 et le verset 13. Hébreux chapitre 1 et le verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied » Ensuite, une définition des anges et de leur travail, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, pour servir donc, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, pour exercer un ministère en notre faveur. » Je me rappelle d'un récit que j'ai entendu à l'époque, un ministre qui était perdu, je crois que c'était dans un aéroport, et quelqu'un est venu l'aider, montrer la direction, ce qu'il fallait faire, et ensuite, il ne le voyait plus, il était parti. Et c'est assez typique du comportement des anges. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Hérode l'a fait mettre en prison, et pendant la nuit, parce que Pierre était lié des deux chaînes, les chaînes sont tombées, l'ange lui a dit de s'habiller, ils ont passé les deux gardes, la porte de fer qui menait à la ville s'est ouverte toute seule, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est marqué « Aussitôt l'ange quitta Pierre ». Aussitôt l'ange quitta Pierre. Il a fait, ce récit se trouve dans Actes chapitre 12. Et l'ange donc a fait ce qu'il avait à faire, il a reçu des instructions de la part de Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est parti. Il est parti aussitôt. Son travail terminé. Au début du sermon, j'ai lu Hébreux chapitre 13 et le verset 2. J'ai voulu revenir brièvement sur ce passage. Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Si ça arrive, les anges ne vont pas toujours s'identifier. Nous ne saurons pas. Il faut montrer, bien sûr, le même amour et la même gentillesse, que ce soit des anges ou pas. Et quand ils servent, ce n'est pas pour attirer l'attention. Ils travaillent dans l'ensemble plutôt en coulisses. Et c'est normal parce que le focus, notre focus doit toujours être sur Dieu. Nous prions Dieu. Nous demandons à Dieu. Nous recherchons Dieu et nous dépendons de notre Père spirituel. Les anges sont aussi assignés pour protéger. Pour protéger les enfants de Dieu qui sont ou qui peuvent être vulnérables. Psaume 34 et le verset 8. Psaume 34 et le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dieu met ses anges autour de nous pour nous protéger. Pour nous protéger des accidents, pour nous protéger parfois d'une mort prématurée. Et ils sont aussi des messagers. Les anges sont apparus à Abraham et à Lot et aussi à Agar. La première fois, c'est quand Agar s'est enfuie de sa maîtresse, de Sarai, qu'il avait maltraitée. Genèse chapitre 16 et le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Sûr. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et d'où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » C'était le plan de Dieu, les intentions de Dieu, et l'ange participait à ce plan de Dieu, à son niveau. Le deuxième exemple, quand un ange a parlé à Agar, c'est dans Genèse chapitre 21. cette fois-ci, elle est dans le désert avec Ismaël, son fils, et l'eau vient à manquer. Je saute au milieu d'un contexte, verset 16. Et elle s'assoit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. C'était ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait projeté. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et l'ange est intervenu pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Dieu avait promis un avenir pour Ismaël. Les anges peuvent avoir un genre de curiosité, ce qu'on peut peut-être appeler une saine curiosité. Je termine ce sermon en citant 1 Pierre chapitre 1 et le verset 12. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, vous membres de l'Église, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Cette curiosité. Et la conclusion, c'est que les anges obtiennent une certaine connaissance de ce que Dieu a révélé à travers son peuple. Il y a une interaction entre le monde spirituel et le monde physique.